Nous avons le plaisir de retrouver Philippe Play, prêtre passionniste âgé de 46 ans, disciple et fils spirituel de saint Paul de la Croix. Père, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez donc venu nous voir sur RCF Bordeaux pour nous présenter un ouvrage dont vous êtes l'auteur, qui s'appelait justement « Prier 15 jours avec saint Paul de la Croix », un parcours spirituel qui nous fait découvrir qu'en Dieu, la passion n'est pas que laideur. Alors aujourd'hui, dans la même collection, aux éditions Nouvelle Cité, vous nous présentez « Prier 15 jours » avec Gemma Galgani. Alors sainte Gemma Galgani, née le 12 mars 1878 près du Luc, elle ne vivra que 25 ans, la plus grande représentante italienne du culte du Sacré-Cœur, son expérience de la mystique, de la passion, lui confère une place toute particulière. Elle nous apparaît comme une fleur de la passion, ou peut-être davantage comme une pierre précieuse. La Providence faisant bien les choses, elle porte fort bien son prénom. En parcourant votre livre, on ressent bien que vous lui portez, Père Philippe, un amour tout particulier. Pouvez-vous nous la présenter selon votre cœur ?
Gemma est d'abord une enfant. Elle est aussi une femme. Une femme qui choisit l'absolu, qui laisse son cœur complètement être envahi par un amour qui la dépasse, par l'amour avec un grand A, d'une manière absolue, comme absolue. Elle est une enfant d'abord. Une enfant parce que elle ne cache rien, elle n'a pas de calcul, ce qu'elle pense, quand on l'interroge, elle le dit. Et de ce point de vue-là, elle est très nature. Gemma était une enfant vraiment comme les autres, pleine de vie, elle était pleine de gaieté, elle savait user de ses charmes, elle était très jolie. Et elle avait beaucoup de cœur, il y avait tout un rayonnement qui était autour d'elle, et bien elle savait profiter de cela. Son père qui l'adorait et qui lui donnait tout ce qu'elle désirait, et bien était sous son charme déjà lorsqu'elle était enfant. Et on voit Gemma ça pleurait d'une manière très opportune pour obtenir la nouvelle robe qu'elle désire. Gemma est vraiment une enfant comme toutes les autres enfants aujourd'hui. Quand on regarde dans la rue toutes les adolescentes, elles sont habillées autrement, bien sûr. Leur tenue, leur comportement aussi n'est pas celui du 19e siècle de la ville de Luc. Mais il suffit de transposer pour comprendre aisément que l'une de ces jeunes filles ou adolescentes, ça dépend à quel âge on la prend ou on la considère, eh bien, c'est la même. Et c'est à partir de cette petite fleur humaine que le Seigneur va faire son grand chef-d'œuvre d'amour. Il l'a choisi vraiment pour la séduire, pour prendre tout son cœur. Jeune fille, bien Gemma est une enfant, est une jeune fille qui désire faire l'expérience du grand amour. Le Seigneur va descendre dans la psychologie de l'homme, de cette femme, pour, à partir de là, eh bien, pour l'entraîner jusqu'aux cieux, pour l'entraîner jusqu'à une expérience d'intimité absolue avec son cœur. Gemma est la plus grande représentante du culte du Sacré-Cœur en Italie, et à cette période en particulier. Ça veut dire quoi ? La spiritualité du Sacré-Cœur, c'est Jésus qui, d'une manière particulière, eh bien, est spéciale et surnaturelle aussi, montre son cœur à quelqu'un. Il lui dévoile les secrets de son cœur, un cœur tout d'amour, il fascine la personne. C'est arrivé en France, évidemment, avec Sainte Marguerite Marie à la Coque, au XVIIe siècle. Mais cette spiritualité, eh bien, s'étend au siècle suivant, et puis au XIXe siècle avec Sainte Gemma. Voilà le parcours global. Maintenant, il faut pourvoir le chef-d'œuvre de Dieu, parce que Gemma a vécu à partir de l'âge de 19 ans vraiment dans le surnaturel. Et d'une manière alors là qui la coupe apparemment de l'expérience commune, eh bien, il y a vraiment deux périodes de sa vie. Avant, où elle est vraiment une jeune fille, disposée et ouverte à toutes les expériences de la vie humaine, mais centrée sur l'amour. Et ensuite, eh bien, cet amour qui fait irruption d'une manière toute spéciale et qui veut nous dire eh bien, que Jésus ne l'a pas fait seulement pour elle, mais qu'il désire en faire une icône et nous montrer à travers cela ce que lui désire profondément pour le cœur de l'homme, de tout homme.
Alors, il est amusant de constater l'analogie spirituelle qu'il y a entre une autre amoureuse, hein, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et Sainte Gemma. Elles sont décédées toutes les deux à 24 et 25 ans, de la même maladie, contemporaines. Elles se sont consumées d'amour en s'offrant à l'amour miséricordieux, bien que la petite Thérèse n'ait pas porté comme l'a fait Gemma la grâce inouïe des stigmates. On reconnaît la mission posthume de Sainte Thérèse, missionnaire, pourtant enfermée au fond de son Carmel. Peut-on parler de la mission posthume de Sainte Gemma pour nos temps actuels ?
Déjà, historiquement, on peut parler d'une mission posthume de Sainte Gemma par rapport aux moniales passionnistes, c'est-à-dire à celle Saint Paul de la Croix avait fondé à la fin de sa vie une branche féminine à la congrégation passionniste. Or, il n'y avait qu'un seul monastère. Quelques décennies, environ une vingtaine d'années avant ou 30 années avant la venue de Gemma, cette grande aventure spirituelle, il y avait eu un monastère en France, dans la Sarthe, Mamers, qui avait été fondé. Mais les moniales ne semblaient pas avoir un grand développement, manifestement. Or, avec Gemma, elles ont eu soudainement, juste après sa mort, un développement à travers le monde entier. Donc déjà, à travers elle, ces femmes consacrées à la spiritualité de la passion, donc cet amour du cœur de Jésus qui est dévoilé sur la croix, il y a déjà une grande mission. Ensuite, en Italie, en Espagne, ce que Thérèse a fait pour la France, Sainte Gemma l'a fait pour la Méditerranée. Et elle a été très invoquée, elle a été très célèbre, canonisée très rapidement. Elle a été canonisée en 1940 alors qu'elle est morte en 1903. Elle a vraiment été l'apôtre de l'amour. Mais il est vrai qu'en France, on ne la connaît pas. C'est une figure qui n'a pas été, qui n'a pas réussi à pénétrer, et sans doute à cause de Thérèse. Reprenons votre parallèle, justement, entre les deux. Qu'est-ce qui les distingue ? Elles ont vécu toutes les deux des épreuves, des maladies, dont elles furent guéries, près à de grosses maladies, et elles s'étaient atteintes toutes les deux de la tuberculose et elles ont réussi, ce qui était particulier pour ces deux cœurs, c'était de vivre la manière d'offrir cette maladie contre laquelle elles ne pouvaient rien. Elles l'ont offerte vraiment, elles l'ont transformée en sacrifice d'amour. Tant de gens face à la maladie le transforment en révolte. C'est une expérience qui leur paraît intolérable, insupportable, ils ne parviennent pas à la dépasser. La seule manière de la dépasser, c'est de l'offrir. Et c'est ce que Gemma, c'est ce que Thérèse de Lisieux aussi, nous montre comme exemple. Gemma a en plus cet aspect, elle porte vraiment dans son corps, elle a porté dans son corps, elle porte sur son cœur les signes de la passion. Et c'est le Christ qui les a inscrites sur elle.
Thank you.
Auditorium de la foi sur RCF Bordeaux.
Invité de Gaëtan Delacoste aujourd'hui, Philippe Play, prêtre passionniste, auteur de Prier 15 jours avec Gemma Galgani.
Alors tout au long de ces 15 jours de prière avec Gemma, vous nous entraînez dans l'univers ordinaire, quotidien, d'une jeune fille de notre temps donc, que la grâce a touchée et qui par son oui absolu et définitif à Jésus, va se laisser séduire par lui jusqu'à la fascination et de vision en extase et d'extase en stigmate, va devenir ainsi que le lui avait prédit son ange gardien, l'épouse d'un roi crucifié. C'est donc un mariage mystique. Lorsqu'on découvre Gemma enfant puis jeune fille, comment s'est opérée la transformation de tout son être pour en arriver à une telle maturité spirituelle ?
Vous évoquez l'apparition de l'ange. Soudain, il faut la reprendre. Gemma est devenue Sainte Gemma d'une manière très tangible par un choix très volontaire de sa part. Donc elle a été éduquée dans une famille aimante et chrétienne. Mais comme tout être humain, il lui a fallu ratifier cette foi. Or, la caractéristique, c'est que ça va se faire avec elle d'une manière tout à fait tangible, d'une manière vraiment sensible, par des visions, par des phénomènes surnaturels et tout à fait inouïs et qui vont vraiment frapper les contemporains. La première fois, donc, cette jeune fille, élégante, se sort en promenade avec son père et elle porte une montre en or qu'on lui a offerte. Et au retour de la promenade, c'est là qu'elle va voir son ange. Et un ange qui lui dit, d'une manière très sérieuse, en s'adressant à elle, les bijoux de l'épouse d'un roi crucifié sont les épines et les clous. Voilà, elle a peur de cette irruption du surnaturel. Elle saura plus tard que c'est son ange, mais sur le coup, vraiment, elle a peur de cet ange. C'est son annonciation. Une annonciation qui paraît sévère, mais en fait, tout de suite, elle a dit qu'un grand climat de paix, une grande douceur envahit son cœur. Elle verra ensuite le Jésus lui-même qui lui apparaîtra sous la forme du crucifié. Ça, c'est son expérience intérieure. Extérieurement, qu'est-ce qui se passe ? Il va se passer une grande épreuve dans la vie de Gemma, c'est la mort de son père. À la mort de son père, la famille change aussi de rythme de vie parce que c'était un homme excessivement généreux et qui, on peut dire, distribuait ses biens. Il n'exigeait pas d'être payé par les fermiers qui tenaient les fermes en location ou ses locataires, justement. Et peu à peu, il se portait caution. Tous ses biens ont fondu parce qu'il était un homme très généreux. Et au moment de sa mort, la famille tombe dans la ruine. Et c'est à ce moment-là, parce que Gemma avait déjà perdu sa maman à l'âge de 7 ans, c'est à ce moment-là que Gemma prend la décision de se consacrer à Dieu. Elle le fait de manière très sensible, parce que c'est un tempérament passionné et qui veut vivre les choses jusqu'au bout. Elle se met à porter